Donc Jean-François nous fait signe que nous pouvons démarrer cette table ronde. Donc en tout cas, déjà, je voulais remercier l'ensemble des intervenants et rappeler quelques éléments forcément succincts par rapport à des parcours particulièrement riches pour les uns et les autres. Et comme on faisait remarquer, voilà une table ronde paritaire, donc c'est d'autant plus important, me semble-t-il. Et je vais vous présenter par ordre alphabétique. Alors, il y a d'abord Jean-François Cerisier, qui est professeur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Poitiers, qui surveille pour voir si je n'oublie rien et si je suis précise. Mais vous n'hésiterez pas à compléter si j'ai oublié certains éléments importants. Et vous travaillez depuis 30 ans sur les questions relatives aux usages des technologies numériques dans le champ de l'éducation. Vous vous intéressez plus particulièrement au processus d'appropriation des technologies par les institutions et leurs acteurs et usagers. À noter aussi que vous dirigez le laboratoire Techné, que vous êtes vice-président en charge du numérique et de la documentation dans votre université. À noter encore que vous êtes titulaire de la chaire Mortimer sur l'e-éducation qui est financée par la région. Si l'on poursuit, Hervé Le Grosnier, qui est maître de conférence en informatique à l'Université de Caen, donc nous sommes chez vous ici. Vous êtes chercheur associé à l'Institut des sciences de la communication, qui est une unité mixte CNRS Paris-Sorbonne, UPMC. Vos recherches portent sur les relations entre Internet et plus généralement le numérique et la société. Vous travaillez également sur la théorie des biens communs et sur la communication scientifique. À noter encore que vous êtes éditeur multimédia chez C&F Éditions. Nous poursuivons avec Louise Merzeau, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense. Vous êtes directrice adjointe du laboratoire DICEN-IDF, dispositif d'information et de communication à l'ère numérique, à Paris, responsable de l'axe traçabilité, identité et mémoire numérique. Vous êtes co-directrice du département Infocom à l'université, dans votre université. Vous êtes également présidente du conseil scientifique de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, l'ENSIB, et cela depuis 2014, et vous êtes membre du conseil scientifique de la chaire des Bernardins, l'humain au défi du numérique, sujet qui nous intéresse tout particulièrement évidemment aujourd'hui. Et enfin, Emmanuelle Roux, qui est directrice associée de SC21 et de Le Chaudron. Membre du Conseil national du numérique. Vous êtes cofondatrice de plusieurs Fab Labs en France, dont celui de l'Université de Cergy-Pontoise. Vous intéressez plus particulièrement aux impacts de la démultiplication des lieux et des outils de fabrication numérique personnelle. Et on pourra préciser aussi que vous êtes responsable de la licence professionnelle développeur web et web mobile à l'Université de Cergy-Pontoise. Donc j'espère que j'ai été complète sur vos différents parcours. Alors vous avez vu effectivement le sujet qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, puisqu'on est sur les conditions de la citoyenneté et de l'exercice démocratique, avec toute la question ou les questions éducatives qui se portent autour de cela. Et avec un certain nombre d'interrogations, dont certaines ont déjà été évoquées ce matin, comment construire une culture numérique citoyenne, comment former le public, comment aboutir à une définition partagée de la littératie numérique. Donc pas mal de questions, on va essayer quand même de contraindre un petit peu nos temps d'intervention pour laisser un temps d'échange avec la salle, puisque plusieurs des intervenants souhaitaient que l'on puisse aussi se garder ce petit moment d'échange. Alors évidemment, quand on parle, et comme on l'a déjà évoqué ce matin, qu'on parle du web, c'est finalement, on le pense comme une forme de société, comme un espace de socialisation, un espace de sociabilisation selon les cas, et ça pose tout un ensemble de questions, certaines déjà évoquées ce matin. On a parlé de la fracture numérique, qui est la question aussi de l'inclusion ou de l'exclusion numérique, qui est un point important évidemment au sein d'une société. C'est aussi celle de la capacité d'utiliser des réseaux dans des visions qui peuvent être très différentes, puisqu'on a aussi évoqué ces approches collaborative, participative. Un exemple, ça peut être Wikipédia, des perspectives aussi mercantiles, pas forcément dans une vision d'ailleurs péjorative du terme, mais commerciale. dans un cadre politique. Un exemple assez parlant est aussi Wikileaks dans ce cadre aussi. On peut parler de perspectives parfois égocentriques où finalement, en tant qu'individu, on va se mettre en scène sur le web parce que on a parlé de starisation tout à l'heure et on devient soi-même la vedette d'une certaine manière de son propre réseau. Et ça peut être aussi des perspectives informationnelles ou désinformationnelles puisqu'il y a évidemment les deux côtés de la médaille dans ce domaine-là. Ce qui a aussi été évoqué ce matin, c'est celle de la prise de décision que de plus en plus on délègue à des algorithmes dont on ne connaît pas forcément les tenants et les aboutissants et où parfois on n'est pas en mesure non plus d'identifier les alternatives, c'est-à-dire quelles seraient les autres possibilités pour trouver des modèles d'aide à la décision ou des modèles de décision, ça va même plus loin dans ce cadre. Et vous avez entendu tous certainement parler de toutes ces discussions autour du site Admission Post-Bac et des algorithmes qui étaient liés et où tout un ensemble de questions pouvaient se poser à ce propos-là. Donc évidemment, ça interroge sur notre capacité critique, puisque c'est un lieu ou un espace d'influence majeur. Et on constate que c'est, pour un certain nombre d'internautes, ça devient le vecteur principal d'information, c'est-à-dire qu'ils vont plus chercher l'information ailleurs. On a pu aussi identifier, lors de la dernière campagne électorale américaine, on a pas mal échangé déjà à ce propos, que finalement les internautes ont échangé en volume plus de canulars que de vraies informations, et c'est quand même particulièrement troublant. Et enfin, on l'a évoqué aussi, c'est ces questions d'algorithme. D'une certaine manière, au-delà de la capacité critique, c'est aussi la capacité de jugement, la capacité de décision qui peuvent être mises en cause. Alors évidemment, à partir de là, on a évoqué cette question de nécessité d'alphabétisation numérique. Finalement, c'est la traduction du terme anglais literacy, et qu'on retrouve ici en langue française, avec des définitions qui sont différentes, puisque pour l'OCDE, on est plutôt sur des compétences de niveau fonctionnel, un niveau minimal de compétences. Pour d'autres auteurs, c'est plutôt une capacité à participer à une société qui utilise la technologie dans différents environnements. Donc cela, évidemment, va poser tout un ensemble de questions qui vont être posées à nos différents intervenants. Et je vais commencer par poser une question à Louise Merzeau, à savoir, est-ce qu'on peut encore considérer aujourd'hui que le numérique est simplement un outil ?
Bien, bonjour, merci pour cette invitation et pour cette question. Alors je vais me couler dans les pas notamment de ce qu'a dit ce matin Franck Cormeret. Et si on revient effectivement sur l'une des définitions de la littératie, on voit qu'elle est définie en termes d'utilisation du numérique. Donc d'emblée, on a une conception instrumentale du numérique. Et en plus, si je continue la définition là, que j'ai sous les yeux, c'est donc utiliser le numérique dans la vie courante, à la maison, au travail, dans la collectivité, en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses compétences et capacités. Donc là, on a typiquement cette conception instrumentale et individualiste du numérique comme une chose qu'on utilise pour servir des fins personnelles. Alors, de fait, vous en doutez, moi je souscris au contraire à la vision donc qu'a commencé à développer Franck Cormeret ce matin, c'est-à-dire non pas d'une alphabétisation, mais d'une formation d'un lettré numérique. Et je pense en effet que ça passe notamment par le fait de casser cette conception instrumentale et de considérer le numérique comme milieu, c'est ce que disait aussi ce matin Jean-François Balaudet, comme milieu et non pas comme outil, ni même, je dirais, uniquement comme média. Vous avez rappelé à l'instant qu'on a échangé plus de canulars que d'informations pendant telle ou telle campagne électorale. Ça ne me paraît ni étonnant ni même désolant, c'est précisément parce que c'est l'environnement où l'on vit. C'est un environnement où l'on vit, donc dans lequel, évidemment, il n'y a pas, ça n'est pas qu'un média d'information, donc il n'y a pas que de l'information, et encore moins pas que de l'information vraie, comme vous dites, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, on comprend quand même. Mais il y a aussi de l'information. Alors juste en quelques mots très rapides, quelques indices, disons, ou manières d'appréhender justement cette idée de milieu. Bon, d'abord, on constate, et je crois qu'il faut insister là-dessus, une très grande interdépendance des éléments qui constituent justement ce milieu numérique. malgré les logiques de silos qui sont très fortes et sur lesquelles il est très important de réfléchir, mais en même temps il y a une interdépendance des écosystèmes, il y a des effets de continuum, en particulier au niveau des usages. Alors souvent on a fait beaucoup de commentaires sur par exemple le brouillage des frontières publiques et privées, mais je pense que ça va beaucoup plus loin. Il y a des enchevêtrements beaucoup plus complexes qu'il faudrait regarder plus finement, entre le jeu, l'expression, l'opinion, la relation à soi, le discours intérieur, l'interlocution, la contribution, etc. C'est pas seulement dans un régime comme ça binaire entre privé et public. Et il y a des effets de continuum, hein, où on passe d'un registre à l'autre, continuellement presque, et dans différents espaces. Il y a des trames très complexes, justement, qui relient les espaces, à la fois, je dirais, des trames un peu sous-jacentes, fortement opacifiés ou invisibles à la plupart des utilisateurs, bon, ne serait-ce que les régies publicitaires hein, qui relient dans les sous-couches informationnelles et algorithmiques justement les sites par exemple, mais aussi au niveau des usages. On passe son temps à passer hein, d'un espace à l'autre, et précisément pour anticiper peut-être un petit peu sur les discussions qu'on aura tout à l'heure davantage centrées sur l'éducation. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut se centrer. Il faut apprendre à traverser ces espaces hein, et évidemment à ne pas s'enfermer dans telle ou telle bulle. Alors moi, je parle de milieu aussi en référence, j'allais dire bien sûr, à Simondon avec le concept de milieu associé, parce qu'il y a une co-construction de ce milieu par ses usages. Hein. Pas au sens où on en ferait ce qu'on voudrait, hein. C'est pas du tout ça que je veux dire, mais parce que, notamment en fonction de ce que j'appelle la médiation identitaire, l'espace dans lequel nous-mêmes nous circulons, nous nous informons, nous nous exprimons, cet espace-là est lui-même configuré par nos propres traces, par nos propres relations, par nos propres graphes relationnels, et donc il y a une sorte de pliage de l'environnement autour de ce que j'appelle donc cette médiation identitaire, bon, qui reste très problématique, hein, mais qui est un peu aussi ce qu'évoquait Christophe Benavent ce matin en parlant du on-demand, le fait qu'on a une information de plus en plus sur mesure. Mais donc, pour comprendre ces processus, il faut penser environnement, encore une fois, et pas seulement outils ou médias. Et je finirai, et là, peut-être on y reviendra aussi tout à l'heure, sur l'idée que si on parle de milieu ou d'environnement, on comprend que ça appelle aussi une écologie. C'est-à-dire qu'on peut peut-être aussi penser le numérique par rapport à des espèces menacées, par rapport à des équilibres à préserver, par rapport à une biodiversité des idées ou des identités à préserver là aussi. En tout cas, nécessité de comprendre les écosystèmes. Et évidemment pas seulement la manipulation des outils ou le réglage des conditions d'utilisation de telle ou telle plateforme. Donc ça appelle une mise à distance, bien sûr, hein, pour essayer de comprendre justement le fonctionnement de ce milieu ou de ces environnements imbriqués, mais en renonçant à l'illusion d'une position de surplomb. Le problème du milieu, hein, c'est qu'on est dedans. Or, le poisson ne connaît pas H2O, donc évidemment, ça reste très problématique. Comment connaître le milieu sans prétendre être en retrait, en surplomb, voire en opposition, ce qui reste quand même souvent le discours, notamment de l'institution scolaire, on va dire. Donc moi, je pense qu'il faut aller dedans, il faut assumer le fait qu'on est dedans, et néanmoins, ne pas renoncer à penser le milieu comme tel.
Merci. Et dès lors que vous dites que c'est plutôt un milieu, c'est aussi que la transformation est beaucoup plus radicale que si on évoquait simplement un outil. Et forcément, ça transforme nos relations au monde, à l'éducation, au travail, à la politique, etc. Et là, je voudrais interroger sur ces transformations Emmanuel Roux.
Oui, merci. Et merci d'abord pour l'invitation. Ravi d'être avec vous. Plutôt que la relation au travail ou à l'éducation, je pense que le numérique transforme le travail et l'éducation. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas tant notre rapport A qui l'invite à le réinventer. On est sur un modèle qui a été fabriqué au moment à peu près, alors qui a une longue histoire, hein, mais où les dernières ruptures sont plutôt celles du début du XXe siècle et un peu avant, et rattachées à la seconde révolution industrielle. Et donc, on a un modèle de société, d'organisation, y compris quand on pense aujourd'hui qu'on vit encore avec des départements, un homme à cheval pendant une journée à traverser, alors un peu moins les départements en ce moment, mais on n'est pas à l'heure du tweet à l'autre bout du monde et en instantané. Quand on se dit que l'instituteur en Vendée fin 19e n'avait pas le choix que de réunir tous les enfants dans la même classe pour leur apprendre la même notion en même temps, là où aujourd'hui l'espace et le temps n'ont absolument pas le même impact. J'entendais ce matin que j'ai encore trop, moi je dirige des entreprises, donc j'ai trop de clients autour de moi qui me parlent encore de leurs produits qu'ils vendent à leurs consommateurs, là où on entendait très bien ce matin la notion du contributeur et qu'effectivement on n'est plus forcément uniquement un consommateur, voire même demain on ne vendra peut-être plus de produits. Et je constate une incapacité assez globale à oser repenser le modèle, c'est-à-dire à oser se dire que le modèle dans lequel nous avons grandi est un modèle qui a besoin aujourd'hui de se repenser intégralement parce que le numérique vient transformer l'espace, le temps, la diffusion de l'information, la capacité à s'organiser de pair à pair, la capacité d'agir. La capacité d'agir, et j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, mais la capacité d'action de l'individu. Et j'aimais vraiment beaucoup ce que j'ai entendu ce matin par Isaac sur la nécessité de ne pas dissocier l'instruction civique de l'éducation numérique, parce que le numérique sous-tend aujourd'hui complètement notre rapport au monde, en fait. Où le monde est devenu complètement numérique. L'un et l'autre, finalement, font que...
Ça interroge aussi évidemment sur le rapport au savoir, et la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que se former au numérique relève simplement du savoir ? Et je vais poser la question dans ce cadre à Hervé Le Cronier.
Oui, merci d'avoir invité les locaux de l'étape. J'aimerais savoir si on entend bien le S à la fin de savoir. Parce que ce matin, on a discuté de savoir s'il y avait un S à la fin de numérique. Si on pouvait parler des numériques, c'est quelque chose à laquelle je ne crois pas, par contre. Je ne crois pas du tout qu'on puisse parler des numériques, parce que justement, la raison d'être de ce qu'on appelle le numérique, c'est l'interconnexion. C'est le fait d'avoir été capable d'échanger, c'est l'interopérabilité. Enfin, on est dans un, quelque chose qui crée des modèles économiques liés au fait qu'on a un système numérique dans lequel chaque acteur joue sa partition à l'intérieur d'un écosystème numérique. Je partage le point de vue qui a été développé par Louise tout de suite. Nous avons un écosystème numérique. Alors le terme écosystème dans le domaine du numérique a deux sens, deux acceptions. La première, c'est celle des entreprises qui disent « je crée un écosystème parce que je suis capable d'avoir des appareils ou des logiciels qui échangent entre eux ». C'est un écosystème sans biodiversité, ce qui est donc un terme assez étrange en fait. Pour ma part, non, c'est plutôt l'approche écosystémique, c'est-à-dire nous avons un monde entier qui est composé par ce numérique interconnecté, c'est-à-dire par ces gens qui s'interconnectent entre eux avec des plateformes et avec des robots. Et on a ces trois éléments, ces humains et ces non-humains qui sont interconnectés ils sont immergés plus qu'interconnectés. On est plongé dans deux écosystèmes en permanence. Et il y a le succès de cet été, vous avez entendu parler de Pokémon Go. Pokémon Go est bien le symbole de cette appartenance à deux écosystèmes, notre écosystème terrestre physique, dont chacun sait qu'il est en danger, hein, dont chacun sait que la crise écosystémique que nous connaissons peut entraîner des conséquences énormes sur la citoyenneté. Et puis cette noosphère, c'est cet écosystème qui utilise le numérique, mais qui au final est un écosystème qui interconnecte des humains, qui interconnecte des pensées, donc une noosphère au sens de Teilhard de Chardin. Après, sur le S de savoir, on peut se poser la question, effectivement, j'ai essayé de faire le genre marketing, j'ai 5 C. J'ai 5 C qui forment les savoirs, à mon avis, nécessaires. La littératie, je pense qu'il ne faut pas traduire, parce que l'alphabétisation, c'est trop en dessous de la nécessité de ces savoirs pour vivre dans cet écosystème. Le premier, c'est la question du codage, avec un gros point d'interrogation. C'est-à-dire, j'ai entendu quelqu'un dire tout à l'heure que l'important, ce n'était pas de savoir comment coder l'algorithme, mais quel est le modèle du monde qu'on a mis à l'intérieur de l'algorithme. Après, si on sait coder, on comprend mieux comment un monde, on le définit et on en fait un modèle. Donc, il y a... voilà. Donc je suis assez partisan qu'on apprenne aux gens à coder. Je suis moi-même enseignant d'informatique, donc j'aurais peut-être du mal à dire le contraire. Mais je pense que ça ne suffit absolument pas, que c'est en fait, ce n'est même pas une propédeutique. C'est juste un modèle, un peu comme on a des modèles mathématiques, ou comme on a des modèles de grammaire, etc. On va donc avoir des modèles de codage sans que tout le monde devienne pour autant informaticien, codeur, etc. Le deuxième C, c'est la coopération. On a parlé ce matin du citoyen contributeur. Et là, je pense que le monde numérique, justement, comme écosystème interconnecté, est un monde dans lequel la capacité à travailler ensemble, le savoir-être du travail ensemble, est une compétence essentielle. Le troisième C, c'est la compréhension de ce qui se joue. C'est-à-dire, on est dans un système, en fait, où il y a une grande invisibilité. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce qui est invisible? Que fait-on de nos traces? Quels sont les modèles économiques qui se jouent derrière nos usages? Quelles sont les relations politiques et géopolitiques? Géopolitique, oublions pas. On parle de cyberguerre, c'est un peu un terme exagéré, mais au moins il y a des relations entre États qui vont jusqu'à des questions militaires et qui se jouent dans l'obscurité, dans l'invisibilité de ce qu'il y a dans le système. Donc ça, si on veut former des citoyens capables de s'intégrer à l'écosystème numérique, ou plutôt de faire en sorte que l'écosystème numérique serve à notre vie sur l'écosystème planétaire, il faut se poser cette question de compréhension. Le quatrième, c'est la culture. Alors culture, vous savez, ça a toujours deux sens là aussi. On a la culture au sens ethnographique, c'est-à-dire comment nous cuisinons, comment nous vivons, comment nous sommes à l'intérieur de l'Internet, donc comment nous connaissons nos relations sociales, notre nouvelle sociabilité, etc. Et puis c'est aussi la culture au sens de la culture lettrée. C'est-à-dire qu'est-ce qui se joue aujourd'hui à l'intérieur de l'Internet qui fait émerger une nouvelle culture lettrée. Bon, on en a parlé ce matin, j'y reviendrai tout à l'heure. Et enfin, le cinquième C, c'est comportement. Là, je me réfère au grand philosophe André Gors, qui, dans l'immatériel, qui est vraiment un tout petit livre qu'il a publié au début des années 2000 et qui, à mon avis, est toujours d'actualité, il explique que dans une société de service, et les sociétés numériques sont des sociétés de service, le savoir-être est la compétence essentielle du travail, la compétence du travailleur. Et donc, à la fois en termes de ce que vont être les enseignants et ce que vont être les apprenants, c'est qu'est-ce qu'ils font? Comment ils se comportent à l'intérieur de cet écosystème? Et quelle serait la manière la plus efficace et citoyenne de se comporter à l'intérieur de cet écosystème? Vous remarquerez que dans mes 5 C, j'ai évité citoyen parce que je trouve que bon, on en fait beaucoup. Et en fait, les 5 dessinent en fait l'ensemble des capacités d'un citoyen de l'écosystème numérique.
Mais est-ce que ces évolutions transforment alors notre relation avec nos étudiants, Jean-François Cerisier?
Bon. Alors, en préparant, merci de la question, merci de l'invitation. En contribuant à la préparation de cette table ronde, nous nous sommes tous dit qu'il y aurait beaucoup de complémentarité dans nos propos, et je pense qu'on a déjà entendu, et je vais sans doute le faire de nouveau. Donc, je vais répondre à la question, mais avec un petit préalable tout de même. Alors. La dimension instrumentale, j'aimerais revenir une seconde sur cette question-là. La dimension instrumentale du numérique, on ne peut pas la nier, on l'a tous dit, elle n'est pas la seule à prendre en considération. Moi, il me semble qu'on est tout de même souvent enfermé dans un discours autour de la dimension instrumentale du numérique, et que lorsque l'on évoque la question, comme on va le faire là, de la formation de nos étudiants, et que l'on parle de littératie, on parle de littératie parce qu'on referme beaucoup la question autour de la dimension instrumentale. Alors moi je voudrais la situer autrement. D'abord, le numérique, on ne le choisit pas, il est là, et pour répondre à la question, il est là pour nous tous, donc pour nos étudiants aussi. C'est une question de milieu. Après, si on dit milieu, c'est une question de référence scientifique. On peut dire milieu et se référer à Simondon. On peut dire écosystème, comme vient de dire Hervé. On peut dire aussi autrement, et moi je préférerais dire culture. Pas culture numérique au sens où, justement, on enfermerait la culture numérique dans sa dimension instrumentale, mais culture tout court, au sens où notre culture, ou nos cultures, j'y mettrais bien un S aussi, là, à culture, où notre culture ici, ou nos cultures, de façon générale, sont totalement transformées parce que le numérique, entre autres choses, les transforme considérablement. et en particulier par, non pas seulement par les usages massifs en termes de fréquence et de durée que nous faisons de ces techniques, mais aussi, et c'est peut-être parfois plus important pour nos étudiants, en raison de la disponibilité permanente de ces techniques, de ces, et des équipements et des services pour nous tous et pour nos étudiants également. Et on voit bien combien cette disponibilité permanente se transforme les comportements de nos étudiants. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est reprendre des propos d'Emmanuel à l'instant, c'est que ce que nous observons chez les étudiants, mais en fait, ce que nous observons chez les étudiants, c'est que c'est aussi ce que nous pouvons observer pour nous-mêmes, bien sûr, c'est un changement d'ordre culturel, et la culture vue non pas dans sa dimension patrimoniale, mais vue dans sa dimension interactionnelle, définie comme, finalement, la culture comme ce qui nous relie au monde et le cadre dans, au sein duquel nous agissons. Et que l'on peut schématiser, c'est vraiment extrêmement réducteur, mais c'est assez intéressant, avec les quatre catégories que je reprends et qui ont été énoncées tout à l'heure, d'interactions culturelles, et qui sont transformées profondément par cette disponibilité permanente des techniques numériques. C'est notre rapport à l'information et à la connaissance, notre rapport au temps et à l'espace, notre rapport à autrui, et notre rapport à la création et à la créativité. Et ces quatre dimensions-là sont transformées par l'usage du numérique, et c'est très vrai lorsque l'on observe le comportement de nos étudiants, et c'est très vrai lorsque l'on observe aussi le décalage entre le cadre que nous donnons dans nos universités, mais dans nos écoles, collèges, lycées également, le cadre culturel de nos institutions, les activités que nous y organisons, les normes sociales que nous y avons installées depuis longtemps et qui sont en décalage, bien sûr, avec ces évolutions-là, lorsque le rapport à l'information est un rapport d'autorité avec un certain type d'information, une certaine médiation professorale de l'information, et bien sûr, ça vient en collision avec l'accès qui n'est pas facile, mais qui est différent à l'information dès lors qu'on a un smartphone que l'on sort de sa poche. Et il en va de même des trois autres catégories, le temps et l'espace, on voit bien comment il est bousculé, que les portes de l'université, le temps universitaire est questionné, le rapport, la sociabilité aussi évidemment. Et le quatrième, qui est peut-être un peu moins évident à percevoir et qui pour moi représente un potentiel d'action pour les enseignants de tous ordres très intéressant et un potentiel extrêmement positif, c'est que le rapport de chacun à la création, à la créativité, à ce qu'on peut produire et comment on peut le faire, est transformé. Et là, c'est une opportunité d'ordre pédagogique exceptionnelle pour organiser des activités d'apprentissage individuelles ou collectives complètement différentes, complètement nouvelles et particulièrement intéressantes.
J'aimerais bien que Louise Merzeau approfondisse cette question des évolutions, des contenus même, des enseignements en lien avec cette évolution du milieu.
Alors, ce que je pourrais dire pour ma part, peut-être, c'est d'abord rappeler les difficultés que ça soulève. Et notamment, le fait que je reprends là le terme de disponibilité qui vient d'être utilisé. C'est vrai qu'il faut d'abord lutter contre cette impression que tout est à portée de main, d'une disponibilité totale de tout, hein, et dans un régime de facilité, hein, qui est absolument obsessionnel chez les étudiants, c'est-à-dire c'est devenu la valeur suprême, tout est évalué, quoi que ce soit un dispositif, une information, une technique, un outil, tout est évalué à la seule aune de la facilité. Et donc moi j'essaye, mais je ne sais pas si j'y parviens toujours, j'essaye déjà de casser cette relation au monde, qui justement est une relation instrumentale, hein, qui cherche le moindre effort en fait, et de réintroduire la beauté, je dirais, et la valeur de la difficulté, de l'effort, la notion aussi justement de beauté du bel ouvrage, et en quelque sorte aussi réintroduire la notion d'inconfort qui, pour moi, est fondamentalement liée à l'information, justement. L'information, ce n'est pas quelque chose qu'on désire comme ça quand on se lève le matin. On n'a pas une appétence pour l'information et on est plutôt, évidemment, spontanément porté vers l'entre-soi, vers plutôt des logiques communicationnel plutôt qu'informationnel, parce que justement c'est facile. Or ça, bon, évidemment, c'est très difficile donc, de développer cette distance et a fortiori cette théorisation par rapport à des objets ou des phénomènes, donc encore une fois, qui leur semblent très proches et très disponibles. Alors, ce sur quoi moi je voudrais insister pour ma part, pour entrer un peu plus dans le concret, c'est, je vais revenir moi aussi à cette notion de contribution, je crois que là on est tous d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Pour moi, l'essentiel dans ce mot contribuer, c'est le fait qu'on contribue à quelque chose. Et justement, c'est pas simplement... je voudrais introduire une différence, presque une opposition, si je voulais forcer le trait, entre participer et contribuer. Alors, c'est ce que j'ai essayé moi-même de commencer timidement à faire dans mes enseignements à Paris-Nanterre, autour de la notion des communs, c'est-à-dire que je pense qu'il est fondamental que l'école et l'université introduisent cette notion des communs dans les pratiques pédagogiques elles-mêmes. Je pense qu'il faut donc pratiquer et enseigner les communs de la connaissance, parce que pour moi, c'est la mission même de l'école, et qui notamment va pouvoir, par rapport à ces questions de pédagogie numérique, qui va permettre, par exemple, de réfléchir à l'acte et au concept de partage. Pour beaucoup d'étudiants, comme pour tous les internautes, hein, c'est pas propre aux étudiants, partager, ça veut simplement dire, bon, bien sûr, concrètement, ça va être liker, appuyer sur un bouton, justement, dit de partage. Donc ça veut dire, en fait, un envoi, au mieux une recommandation, mais c'est très rarement, voire jamais, partagé au sens de mettre en commun. Ça n'alimente pas d'espace commun, et je pense que c'est précisément cela qu'il faut enseigner, peut-être en priorité, aux étudiants et même aux élèves. Donc ça signifie qu'il faut développer des enseignements sur le savoir publié, sur les enjeux même de l'acte publicatoire, des enseignements, bien sûr, et ça, c'est pas nouveau, et c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est dans la lignée des missions de l'école très ancienne, des enseignements sur les sources, sur la constitution de lieux ressources, de ressources communes, de ressources exploitables, de ressources libres, évidemment, c'est encore mieux, et de faire réfléchir les étudiants à ces questions qui en sont totalement éloignées, parce qu'encore une fois, pour eux, c'est le supermarché, il n'y a qu'à servir. Et très bizarrement, eux-mêmes voient très peu en général ce qu'on appelle dans le milieu des commoners les enclosures. Ils ne voient pas en quoi les ressources sont fermées, en quoi il y a des tas de blocages, de verrous, de toutes sortes, parce que bon, ils prennent là où c'est facile, donc... Hop, ils bifurquent, ils vont plutôt là où ils vont arriver à trouver le film, la série, le contenu, l'article, et ils ne s'arrêtent pas en fait au blocage. Donc ça, je pense que c'est vrai, et bon, c'est assez naturel hein, qu'ils ne se posent pas ces questions spontanément, donc c'est à nous, collectivement, de réintroduire, je crois, ces notions. Mais donc, paradoxalement, ça passe souvent par d'abord la nécessité de casser des logiques en fait, de communication. Je dis ça, je suis prof de communication hein, et d'information, mais j'assume tout à fait ça. Donc apprendre à publier, apprendre à éditorialiser, et je crois que c'est comme ça, notamment, qu'on retrouvera les discussions qu'il y avait ce matin sur l'apprentissage du débat, hein, c'est-à-dire justement apprendre à donner les moyens, les conditions, les ressources, les métadonnées, etc., si on veut rentrer un peu dans des termes plus techniques, qui vont permettre effectivement d'élaborer une pensée, de discuter une opinion contraire, etc.
Alors, quand on a préparé cette table ronde, le terme culture numérique est apparu à plusieurs reprises. Et je pense qu'on va avoir l'occasion d'échanger là plusieurs sur ce point-là. Et on va commencer par Emmanuel Roux pour savoir quelle est la définition à donner dans ce cadre.
Alors, je vais me permettre, plutôt qu'une définition, j'ai amené une illustration. Vous voyez, j'ai une petite carte avec moi. Cette petite carte, ça s'appelle une carte Arduino. C'est ce qu'on n'appelle pas du matériel open source. On va parler d'open hardware parce qu'on est dans du matériel que je tiens dans la main. Ça part d'une école. Ça part d'une école en Italie qui fait forme des designers. Et en l'occurrence, le monde changeant, il y a déjà 12 ans, 13 ans de ça maintenant, on voit arriver l'Internet des objets. On voit arriver la nécessité de faire des objets connectés, des objets interactifs. Et donc avant, ça demandait la filière d'en face, l'école d'électronique. Et l'école d'électronique, ils n'avaient pas les mêmes plannings que les étudiants de l'école de design. Et du coup, ils n'arrivaient jamais à faire des projets ensemble, ils étaient trop lents, ils n'avaient pas l'occasion d'essayer, d'expérimenter, de recommencer. Le matériel des électroniciens coûtait beaucoup trop cher. Et du coup, les designers, probablement aidés par des amis électroniciens, je suppose, ont dit, bah, écoute, on va faire une petite carte. La petite carte, on va la publier en open source et on va la rendre disponible et on va partir du principe qu'elle ne coûte pas plus cher qu'une pizza pour 4 étudiants par semaine. Et donc, effectivement, c'est $20 à peu près qui permet de pouvoir la griller autant de fois qu'on veut. Et donc, ça permet d'essayer, d'explorer, d'expérimenter. Alors, ils ont fait cette carte, ils l'ont publiée et puis ils pensaient à résoudre le problème de leurs étudiants, quoi, fondamentalement. Et puis, en fait, ils ont vu arriver un peu partout dans le monde des gens qui ont dit « Waouh !» On peut vous en acheter ? Oui, bien sûr, on vous vend. Donc, ils ont monté une boîte à l'école hein, pour vendre cette carte. Quelques années plus tard, alors, et là, les gens se sont mis à contribuer. Donc, certains ont écrit un premier tutoriel, un deuxième, un troisième, un quatrième. Des forums se sont ouverts. Vous avez une boîte à Toulouse qui s'appelle Snoot Lab qui a dit bah, « Nous, on va faire une boîte sur le fait de faire des accessoires pour cette carte ». Vous avez une autre boîte qui s'appelle Letmino, qu'on connaît bien à Paris. Dans l'univers des Fab Labs, évidemment, cette carte est devenue reine. Vous avez... La possibilité de tous ces gens qui ont créé un savoir commun autour de cette carte et une capacité de faire. Évidemment, aucun d'entre nous, moi j'ai débuté avec ça, j'ai jamais pris de cours, j'ai été voir des ressources en ligne, j'ai appris avec mes pairs, j'ai appris en essayant, j'ai appris en téléchargeant, j'ai appris en grillant. Et puis en plus, l'électronique, je suis vraiment pas bonne. Là, pour le coup, c'est pas mon truc. Par contre, c'est rigolo parce qu'à la fois, il y a à la fois du code dedans et de l'électronique. Du coup, vous avez les arduineurs qui font du code et ceux qui font de l'électronique. Il faut mettre de l'objet autour. Et puis parfois on le met dans du textile. Donc on se retrouve à bosser avec un couturier ou une couturière sur une veste de vélo qui va s'allumer à chaque fois qu'on freine. C'est ce qu'on a fait au Fac Lab par exemple, avec des gens qui, aucun d'entre eux un an plus tôt, n'aurait pensé travailler avec les autres. Rencontrer l'autre, rencontrer la difficulté, être capable d'échanger, ouvrir le débat, se confronter à l'altérité. Et ça, c'est un peu la magie, effectivement, de cette culture. Pour continuer sur cette petite histoire, on pourrait dire que c'est anecdotique, mais en fait, ils en ont vendu, en moins de 10 ans, ils en ont vendu 1 million. 1 million, 20 millions de dollars, on est en train de dire. 20 millions de dollars de gens qui, à partir de là, ont créé des projets. Ces projets, ils les ont poussés sur un truc qui s'appelle Kiss Kiss Bank Bank ou d'autres, en crowdfunding. Ces gens ont levé entre 7 et 8 millions d'euros, ou de dollars, je ne sais plus, pour pouvoir ouvrir des entreprises. Et parce que vous avez des profs qui avaient un problème pédagogique au fin fond d'une école, vous avez des gens qui ont créé des entreprises un peu partout dans le monde. Cette carte, elle fait... aussi bien, elle peut vous permettre de fermer votre poulailler. Si plus de lumière, alors activez moteur. Facile. Après avoir compté le nombre de poules qui rentrent ou qui sortent. Assez simple, en fait. Et en même temps, cette carte, elle a aussi la capacité à faire tourner, visiblement, un satellite qui est mutualisé parmi plusieurs établissements scolaires qui se partagent une capacité satellitaire. Pour moi, le numérique, c'est ça. Pour moi, la culture numérique, c'est la culture de faire l'improbable. La culture de faire tout court, d'abord. Donner le pouvoir à l'autre d'agir. C'est-à-dire que si on avait demandé que ce soit à un banquier, à un institutionnel, à n'importe qui, avant cette histoire, on leur aurait dit... Il n'y a pas de marché, ça n'intéressera personne et de toute façon, ils sont incapables de l'utiliser. Or, on a libéré cette capacité extraordinaire de mettre en mouvement et de permettre à l'autre de faire et d'agir. Et c'est ce que ça vient tout changer au monde, pour le pire et pour le meilleur, comme on le dit depuis ce matin. C'est ce qui demande à savoir que nous sommes des êtres politiques. C'est ce qui demande absolument à repolitiser pour pouvoir redonner une moralité ou une capacité de jugement, ou je ne sais pas comment le dire, mais vous voyez ce que je veux dire, et à se dire que non, le numérique n'est pas technologique, il est d'abord politique et culturel.
Merci, en tout cas c'est une belle histoire, et ici on est autour de l'invention aussi, à partir d'un objet, vous nous donnerez le lien, parce que je pense qu'on va tous se précipiter pour imaginer de nouveaux usages autour de ça, et peut-être nous donner l'impression qu'on devient très performant dans ce domaine-là. Alors, Hervé Le Crosnier, vous, d'ailleurs, vous vous assurez un cours de culture numérique. Je précise qu'il est en ligne, hein, donc tout le monde peut y accéder. Est-ce que vous en avez la même conception ?
Ce cours a une histoire. Hein, j'ai commencé depuis l'an 2000 à peu près à nourrir dans mes cours des questions qui sortaient de la stricte technologie du web, puisque c'était ce que j'enseignais, ou les technologies de la documentation, j'avais la double compétence. Et puis pour poser des questions. Ce qui a été mis ici, est un peu une histoire que je raconte à mes étudiants qui nous permet de mesurer en fait ce qui est en train de se passer et pour lesquels l'éducation est globalement un peu en deçà de ses responsabilités. Imaginez, revenez en arrière, je crois que tous dans la salle vous allez vous rappeler, 1995. On vient d'inventer un réseau qui va couvrir le monde, permettre à tout le monde d'échanger. Et à ce moment-là, on pose une question aux gens dans une salle comme celle-ci. En disant, écoutez, voilà, on a trois idées. Il y a des gens qui vont développer des logiciels ou du matériel hardware comme ça, qui vont le donner gratuitement, et d'autres qui vont le prendre, l'améliorer, le modifier, le faire circuler. On va avoir des gens qui vont créer une encyclopédie où tout lecteur va pouvoir écrire dessus, la modifier, l'améliorer, faire quelque chose qui va couvrir l'ensemble des savoirs du monde dans toutes les langues du monde. Et puis, on va créer des ressources éducatives libres. On va demander aux enseignants, dont le métier est de transmettre, de produire des ressources qui vont être réutilisées par d'autres enseignants, découpées par morceaux. À votre avis, en 95, quelle est laquelle de ces trois choses qui va marcher? C'est celle qui n'a pas marché, auquel tout le monde aurait pensé. C'est-à-dire que les enseignants, les gens dont le métier c'est de transmettre, se seraient lancés dans cette grande aventure épistémique de partager le savoir, partager leur savoir. Au même moment, dans nos universités, qu'est-ce qu'on a vu se développer? Les fameuses enclosures dont parlait Louise Merzot, c'est-à-dire la notion de propriété intellectuelle des profs sur leurs cours. Alors voilà. Alors moi, sur mes cours sont filmés. Là, je tiens à remercier les gens du centre d'éducation multimédia de l'université, donc Olivier et Eric qui sont là en train de filmer, et puis son directeur Pierre Bust qui dès 2009 a accepté de jouer le jeu, de dire ok, on va filmer, on va donc investir. Hein, il y a quand même deux caméras qui filment, il y a un montage derrière pour mettre ça en ressources éducatives libres, c'est-à-dire permettre en fait à toute personne, soit en direct, soit même un autre enseignant qui va en prendre des bouts, découper, s'en servir, ou reprendre les diapositives et tout. Bon, voilà, ils ont joué le jeu. Ça me semble quelque chose de vraiment très important à dire, c'est-à-dire notre métier d'enseignant, c'est de partager le savoir, et surtout pas de le garder, ne pas rentrer dans une concurrence entre interuniversités ou quelconque classement de Shanghai. Reprenons du recul par rapport à toutes ces choses-là et disons que nous sommes en train de former. Alors nous formons des étudiants, mais nous avons une autre mission, c'est d'irriguer la société avec nos débats, avec nos recherches, avec tout ce qui se passe. Et c'est ça principalement la citoyenneté. D'où l'idée aussi de mettre ces vidéos en ligne, qui est de dire, ben voilà, le public c'est les étudiants, mais c'est aussi ce qu'on appelle le grand public éclairé, les gens qui se posent des questions et les gens qui vont vouloir savoir. Et puis, c'est aussi la formation continue. Je pense que là aussi, nous avons raisonné beaucoup depuis ce matin. J'entends une logique d'universitaire parlant à des étudiants. Mais pensons que dans le numérique, aujourd'hui, les premiers qu'il nous faudrait former, ceux qui seraient vraiment utiles, c'est tous les décideurs, tous les élus. C'est eux qu'il faut absolument qu'ils comprennent avant de voter des lois qui soient soumises à des décisions de lobby ou de grandes entreprises transnationales. C'est ça qui serait important. Donc c'est notre rôle d'universitaire. C'est là qu'il faut qu'on le fasse. Donc, alors moi, j'essaie de mettre ma petite pierre avec mon cours de... Alors, culture numérique. Culture numérique, oh là là. Oui, c'est quoi derrière la culture numérique? Encore une fois, je disais, il y a deux approches. Il y a l'approche anthropologique, hein. C'est-à-dire, on regarde ce qui se fait. Moi, j'essaye souvent, je décris. Je dis, voilà, ben, j'ai fait un cours sur Pokémon Go, voilà, qu'est-ce qui se fait, et comment on passe de Pokémon Go à la cartographie en ligne, et quels sont les débats qu'il y a à l'échelle mondiale, quelle est la concurrence économique, géopolitique qui se joue autour de la cartographie en ligne. Donc, voyons, on peut comme ça partir de choses. Et puis aussi, on doit remarquer qu'il y a ce problème d'invisibilité dont je parlais tout à l'heure. L'an dernier, j'ai fait, au moment où ça s'est passé, un cours sur l'affaire Volkswagen, c'est-à-dire comment dans le logiciel les choses sont cachées et comment on est obligé de penser à partir de ce qu'on ne sait pas sans tomber dans le complotisme. Mais justement, comment en ouvrant le code, quelque part en favorisant le logiciel libre, on va empêcher ces logiques de l'invisibilité de la fabrique des connaissances. Mais à côté de ça, il y a aussi, je crois que c'est très important, une nouvelle culture lettrée. Hein, j'ai bien aimé le terme de lettré ce matin, moi j'utilise dans mes cours très régulièrement, et je parle avec cette culture lettrée de nouvelles pratiques culturelles, par exemple le néo-document. Le document aujourd'hui n'est plus le même qu'auparavant. Il y a un contenu toujours, mais il y a en plus des métadonnées, il y a en plus de faciliter la recherche et faciliter la transmission, l'appropriabilité. Tout ça, c'est un néo-document. Il est plus tout à fait le même que le livre ou que la vidéo ou que la musique qu'on pouvait avoir anciennement. Il a été profondément modifié. C'est des tas de nouvelles pratiques culturelles. Je pense qu'au moment où on a un chanteur de rock qui vient d'avoir le prix Nobel de littérature, on est obligé de regarder avec beaucoup d'attention les formes de pratiques culturelles qui émergent, comme les mash-up, le booktubing, enfin, toute cette pratique du lol, du rire qu'il y a sur Internet aujourd'hui et qui constitue une nouvelle pratique lettrée. Parce que tous ces gens ont travaillé, ils ont fait des tutoriels tous. Ça aussi, autre aspect super important, c'est dès qu'il y a une nouvelle pratique culturelle qui se met en place, les gens écrivent comment faire pour que d'autres le partagent, cette logique du partage. Il y a aussi des questions de protocole, c'est-à-dire, cet Internet, ça marche bien avec du concret. Et donc ça, c'est sûr qu'une partie des étudiants ont du mal, quand on explique ce que c'est qu'un protocole, comment ça marche, sans rentrer dans les détails, juste avoir une conception générale, mais pour autant c'est un élément essentiel de la démocratie technique. Ce terme, à mon avis, quand on parle de citoyenneté, c'est est-ce que la démocratie technique, c'est la démocratie entre techniciens, ou c'est la compréhension des enjeux de la technique par le reste de la société? Voilà des questions qui, à mon avis, sont de la culture numérique aujourd'hui. J'ai rajouté un point d'histoire, parce que je pense que c'est important, ça c'est particulièrement pour les étudiants qui sont plus jeunes, de montrer que, en fait, ce qu'ils utilisent aujourd'hui presque sans y penser, ça a une histoire, et des fois ça a été pensé, ça a eu des utopies, des mythes, des textes, des discours, et que, en fait, l'histoire de l'Internet, c'est avant tout une histoire des mythes, des utopies et des discours. Voilà. Donc c'est un peu au sens, il y a une culture lettrée qui est en train d'émerger, et il faut que nos universités soient à la hauteur de ça, c'est-à-dire qu'elles l'étudient pour elles-mêmes, mais aussi qu'elles acceptent de la transmettre. Librement.
Et Jean-François Cerisier, vous aviez tout à l'heure introduit la question de la culture numérique dans ce cas, donc à voir si vous partagez cette conception. Et finalement, est-ce que vous considérez qu'on peut parler de citoyenneté numérique?
Alors moi déjà, dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure, je réfute l'idée qu'il existe une culture numérique. Il existe une ou des cultures. Encore une fois, qui évolue en fonction de ce qu'apporte des pouvoirs de transformation du numérique et de ses usages, mais il n'existe pas de culture numérique. Alors, ou s'il existe une culture numérique, c'est qu'on la restreint à une dimension bien particulière de la culture. Moi, il me semble plus intéressant de raisonner en termes plus généraux de culture, avec un S, et de penser à deux... Il me semble qu'il y a deux éléments assez importants. Le premier, c'est que c'est le S de culture. Il y a des cultures aujourd'hui comme il y avait des cultures hier, et le numérique n'homogénéise pas, ne procède pas d'une logique complètement aboutie de globalisation qui ferait disparaître les différences. Je donne un exemple par rapport au numérique qui me semble tout à fait intéressant, illustratif. Nous travaillons avec un certain nombre de communautés très fortes culturellement, indigènes ou originaires, comme on dit dans certains pays, et en particulier avec les Indiens Mapuche du sud du Chili, vers le sud du Chili, trois quarts sud au Chili. Et les jeunes Mapuche, comme les jeunes de Caen, sont de gros utilisateurs du numérique. Et cette population a longtemps refusé la traduction de Windows dans la langue Mapuzungun, la langue de cette communauté, parce qu'ils estimaient qu'ils avaient peur plutôt que l'entreprise Microsoft fasse, en traduisant Windows dans leur langue, la même chose que ce que les militaires et politiques américains avaient fait avec la langue Navajo pendant la guerre du Vietnam, c'est-à-dire en faire une sorte de code secret pour des communications militaires, alors qu'ils attribuent à leur langue une valeur extrêmement forte de relation avec leur environnement naturel, avec la nature, qu'ils ne voulaient pas voir dévoyée. C'est illustratif, à mon avis, de la force des cultures, y compris lorsqu'elles sont complètement transformées avec le numérique. Ensuite, donc, je n'adhère pas à la définition avec l'exemple Arduino, je joue avec Arduino, et pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est vrai que c'est un beau cadeau de Noël à se faire et à faire aux autres, pas cher en plus, et tout à fait intéressant. Alors, j'adhère tout à fait à ce qui a été dit autour d'Arduino, mais pour moi, ça ne représente pas la pas particulièrement la culture, ou c'est une façon de s'approprier le numérique. Et justement, la deuxième chose que je souhaite dire, c'est que alors non seulement ce n'est pas une culture numérique, ce sont des cultures tout court, mais en plus je pense qu'on a un petit risque à confondre le niveau général et le niveau singulier de l'individu, c'est-à-dire qu'une culture au fond ça n'existe que dans l'appropriation qui en est faite par chacune des personnes, et que l'appropriation qui est faite de tout cela aujourd'hui dans notre culture, de tout cela étant le numérique, est extrêmement variable d'un individu à un autre, d'un groupe social à un autre, et que pour nous, en termes très concrets, très opérationnels, on doit faire très attention. Nos publics ne sont pas des publics homogènes, ils n'ont pas du tout le même rapport au monde en général, pas du tout le même rapport au numérique, pas du tout les mêmes compétences, pas du tout les mêmes besoins. Et il faut éviter d'avoir un regard un peu surplombant et trop généralisant de que résume trop ou qu'indique trop pour moi le terme culture numérique. C'est une des autres raisons pour lesquelles je pense qu'il est assez dangereux de l'employer.
D'accord. Et peut-être là, en quelques mots chacun, parce qu'on voulait garder ce moment d'échange avec la salle, quel modèle d'éducation qui vous permettrait de faire de chacun un citoyen dans un environnement numérique, hein, Louise Berthelot?
Voilà, je vais même pas prétendre répondre à cette question, en tout cas. Je vais me couler dans cette question pour rebondir aussi sur cette, non pas définition de la culture ou de la culture numérique, mais ajouter une idée qui m'est chère, qui a été un petit peu évoquée par Hervé lorsqu'il a parlé d'histoire. Pour moi, une culture, alors qu'elle soit numérique ou sans cet adjectif, ça ne peut pas se penser en dehors d'un temps long, voire d'un temps très long. Et donc pour moi, une des conditions, je ne dis pas évidemment que ça s'y résume, mais c'est la direction, non pas opposée, hein, mais complémentaire de celle qui a été évoquée par Emmanuel par exemple, c'est de regarder aussi un peu derrière nous, de savoir d'où on vient, y compris donc numériquement, donc avec, je pense, la nécessité impérative de développer, alors non seulement l'histoire de l'Internet, l'histoire des techniques, bien sûr, parce que là, il y a une inculture absolument totale, hein, mais même au-delà de ça, je dirais, une relation, par exemple, au web. Bon, je m'intéresse depuis assez longtemps maintenant à l'archivage du web. Et ça, c'est quand on se plonge un peu dans ces questions-là, on se rend compte justement que ça déplace complètement le point de vue que nous-mêmes, on a tendance à développer un peu rapidement sur le numérique. C'est le simple fait d'avoir un rapport différé au flux d'informations, un rapport différé au web, le fait de travailler avec des ressources numériques mais archivées. De travailler avec des archives, comme tous les scientifiques ont toujours appris à le faire, sauf que dès qu'on passe dans le numérique, on perd cette habitude. Et là, je pense qu'il y a aussi plein d'enseignements qu'il faut introduire auprès de tous les étudiants. Je pense que ça devrait être obligatoire d'avoir des formations à l'usage, comme on le fait, je ne sais pas si on le fait systématiquement, mais comme on le fait encore, je crois, assez largement, savoir utiliser une bibliothèque, un catalogue de bibliothèques, etc., savoir aussi maintenant utiliser les archives du web. Donc cette mémoire du numérique lui-même me paraît indispensable. Et puis au-delà, je dirais qu'il faut aussi réinvestir, et là je rejoins plutôt Jean-François, la culture en elle-même, et pas seulement numérique, c'est-à-dire utiliser le numérique aussi pour renouer, je crois, beaucoup de liens qui malheureusement sont actuellement assez rompus avec des formes plus anciennes de culture. Donc il faut aussi travailler, pas seulement sur la rupture, l'innovation, ce que le numérique permet de totalement nouveau, mais aussi ce que le numérique permet pour se réapproprier effectivement nos cultures, nos éruditions, nos auteurs classiques, etc. Moi, je me méfie beaucoup des discours uniquement sur le futurisme, l'innovation, la rupture, même si je souscris complètement, évidemment, à cet enthousiasme d'invention. Mais je crois qu'il y a aussi une urgence à ne pas couper les ponts, en quelque sorte, avec le passé, qui est aussi celui de l'école, hein, celui des savoirs qui sont enseignés depuis des siècles.
Emmanuel ?
C'est une très belle question. C'est une très belle question. Et puis, je m'inscrirai pleinement, vraiment, vraiment pleinement dans ce qui a été dit ce matin par Henri Isaac. Très clairement, oui, pour éduquer à être citoyen numérique, il faut d'abord éduquer à être citoyen. Et donc, c'est d'abord une question d'instruction civique. Et pour ça, je rejoins complètement. Il faut réintroduire, et je dis bien réintroduire, parce que je pense que ça a été perdu, un vrai rapport à la culture, à l'histoire, d'où on vient. Une vraie repolitisation, c'est-à-dire de comprendre quels sont les grands moments qu'on a vécu à travers le XXe siècle et bien avant, et quelles sont la question des humanités qui ont été posées, la question évidemment des humanités, qui sont essentielles à la compréhension du monde. Mais au-delà de cette compréhension du monde qui fut et de là d'où on vient, et vu qu'on est dans... C'est toujours la question de l'enracinement ou de l'arrachement. Mais pour qu'il y ait arrachement, il faut qu'il y ait d'abord enracinement à un moment donné. Quoi. Voilà. Donc, et du coup, pour effectivement, pour prolonger pour permettre l'arrachement, et donc aller au-delà et aller au-devant, la question qu'on doit apprendre aujourd'hui, pour moi, mais aux enfants, et je dis bien aux enfants, c'est de participer à la gouvernance, c'est de savoir qu'ils vont devoir décider, c'est d'être capable de trier et de vérifier, c'est d'avoir le droit de débattre et de remettre en question, c'est de réapprendre à questionner le monde et être légitime pour questionner. Et je suis sidérée de voir qu'y compris mes enfants m'ont clairement dit dans le collège, écoutez, quand j'ai posé la question qui est à la place de l'enfant, quoi, de votre jeune élève dans la gouvernance de l'établissement, on m'a dit, mais madame, ce sont que des enfants, c'est à nous de décider. Donc, comme je disais à table, c'est quand même étrange, le système aujourd'hui, comme il est fait. Jusqu'à 18 ans, on décide à leur place. À partir de 18 ans, ils ont une carte de vote. Donc, c'est pas tant une question de numérique ou pas numérique, ce qui ne simplifie rien parce qu'ils ont la capacité d'agir, parce qu'effectivement, il y a la question des environnements et de l'idéologie qui tourne quand on entend que ce qu'on veut bien entendre. Et tout ce qu'on a dit est très très juste, mais avant ça, il y a la capacité aussi de dire comment on fait confiance à la capacité et comment on accompagne l'autre dans le fait qu'il va devenir être acteur. Et moi, quand j'ai des gamins de 12-13 ans qui passent la porte de mes Fab Labs en disant « Madame, moi je viens parce que je veux être magicien semi-pro. » Je pense à Kylian. Kylian extraordinaire, il est venu il y a 6 ans déjà, il avait 12 ans à l'époque, il en a 18 maintenant. Il dit, et puis je veux prototyper mes tours parce que j'ai décidé de les vendre sur eBay. Ça veut dire que moi, le problème que je traite, c'est des gamins qui sont entrepreneurs à 14 ou 15 ans. Et aujourd'hui, la loi, notre institution, notre organisation, notre société ne sait pas les accueillir. Et donc, il y a une forte dissonance entre ces gamins qui ont la capacité d'agir très jeune et le reste du monde qui leur dit, passe ton bac d'abord et tu verras après, voire ton master maintenant.
Hervé ?
Oui, moi j'ai des étudiants qui sont plutôt pas tout à fait ceux-là, et donc il faut aussi les former, justement leur dire que leur pratique mérite d'avoir du sens. C'est-à-dire, je pense que la culture numérique, c'est en ce sens, je suis à la fois d'accord et pas d'accord, pour moi c'est un cours de culture G du 21e siècle, c'est tout, c'est de la culture G. Voilà. Mais on est là, on est dedans. C'est-à-dire, comment aussi peut-on penser ici... J'étais bibliothécaire avant. Je vais vous raconter une anecdote quand même. J'étais bibliothécaire avant à la bibliothèque de sciences, ici, à l'université de Caen. Et j'ai découvert Internet, donc j'ai essayé de dire, mais ça va servir, c'est très important et tout. Et là, on est en 92, 93. Et les gens viennent me voir en disant, mais attends, Internet, c'est n'importe quoi. Jamais les historiens n'utiliseront un système pareil. À la fac de Caen, ils ont été les premiers à mettre leurs cours en ligne, à mettre leurs documents en ligne, puisque les historiens, on est basé sur des documents. Donc voilà, faut essayer plutôt de le penser. Nous avons une dynamique, un écosystème dans lequel on est. Comment est-ce qu'on va donner les moyens que cet écosystème-là, qui est un écosystème de connaissances, serve à sauver la planète ? C'est l'autre écosystème, celui dans lequel on vit. Et ça, c'est une vraie question, qui est une question de culture G, qui couvre tous les domaines de notre université, absolument. Donc voilà, comment est-ce que ce nouveau système... Alors, on a toujours vécu, on l'a réentendu ce matin, un mythe, qui est dès qu'on a un système de communication, ça va, tous les gars du monde vont se donner la main, et puis il y aura la paix et l'intercompréhension. Ça n'a jamais été le cas pour aucun des systèmes de communication précédents, et nous venons d'avoir la preuve éclatante que ce n'est pas le cas avec l'Internet. Donc voilà, donc c'est pas sur l'objet lui-même, c'est comment on va l'utiliser, comment on va s'en servir et comment on va faire en sorte... En fait, Dana Boyd, qui est une des grandes sociologues de l'Internet, vient d'écrire un texte au lendemain de l'élection de Donald Trump qui dit « Mais nous sommes complices, nous avons créé un réseau dans lequel nous n'avons vu que le partage de la connaissance, alors que ce même réseau a servi surtout à faire circuler la haine. » Donc voilà une question qui est réellement une question culturelle, voilà, en sens que je pense que c'est de la culture numérique. Et sinon, sur comment faut faire, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est créer des ressources éducatives libres, partager. Il y a dans cette société une pulsion épistémique. Hein, et si vous en cherchez une preuve, elle s'appelle Wikipédia. C'est les gens qui le font. Voilà. Donc ce désir de savoir, il existe dans la société, mais qu'on leur donne les moyens de savoir. C'est notre rôle, c'est notre mission.
Et enfin, Jean-François.
Bon, une réponse peut-être en trois points et trois niveaux un peu différents. Alors, puisque je défends l'idée de la dimension essentiellement culturelle, je défends aussi l'idée que ce à quoi il faut parvenir, c'est à une dynamique d'acculturation. Et pour ce faire, on peut se référer à des modèles d'acculturation qui n'ont pas été conçus en référence au numérique, mais plutôt dans des temps un peu plus anciens, à ce qui se passe quand on migre d'un pays à l'autre et qu'on part d'une culture pour arriver dans une autre. Et je pense en particulier à un modèle qui est très décrié, très ancien, très trop schématique, trop rudimentaire, qui est le modèle de Berry et qui est pourtant très parlant puisqu'il dit, on peut facilement l'imaginer, c'est un tableau à double entrée, il dit on a une culture d'origine et quand on migre, soit on la conserve, soit on l'oublie, on a une culture de destination, soit on l'adopte, soit on n'adopte pas. Ça fait quatre situations pour la personne qui migre. La plus favorable, c'est l'intégration, c'est-à-dire c'est celle à laquelle on doit tendre quand on est, je crois, éducateur et pédagogue, c'est-à-dire faire en sorte de conserver la culture antérieure et d'acquérir la nouvelle culture. Donc ça reflète totalement ce qui a été dit, notamment lié à l'histoire, à l'éducation civique, etc., tout en adoptant ce qu'apporte d'intéressant la culture nouvelle. Et ce n'est pas l'assimilation qu'il nous faut viser, qui serait n'adopter que ce qui nous viendrait du numérique et oublier le reste, et je ne parle pas des deux autres situations qui sont bien pires encore. Ça, c'est un niveau de réponse. Le deuxième, c'est en réaction à ce qui a été dit au sujet, moi je dirais plutôt éducation civique qu'instruction civique, mais c'est sans doute pour une orientation politique personnelle. Mais j'adhère complètement à ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne peuvent, il y a des éléments de formation qui ne peuvent se réaliser qu'en les faisant soi-même. Le discours sur la démocratie ne vaut rien lorsque l'établissement scolaire ne met pas en place des principes de vie démocratique, par exemple. Enfin, c'est ce que tu disais. Et il est vrai, et c'est vrai pour bien d'autres sujets, et dans notre débat d'aujourd'hui, c'est particulièrement important. Donc il y a une ingénierie pédagogique qui n'est pas que de l'ingénierie pédagogique, mais qui doit prendre en compte cette dimension-là. Et puis enfin, quelque chose de très terre-à-terre et peut-être paradoxal, qui peut vous sembler paradoxal par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est retour à la dimension instrumentale du numérique, parce qu'on ne peut pas non plus l'écarter complètement. Et juste un constat, c'est très factuel, et c'est très vrai, hein, c'est attesté par de nombreuses recherches, nos étudiants ne sont pas compétents du point de vue instrumental. Et si on distingue deux niveaux de compétences ou deux types de catégories de compétences qui sont les compétences qu'on pourrait qualifier de primaires, c'est-à-dire celles que l'on peut construire simplement par l'expérience, nos étudiants sont assez compétents. Et si on pense à d'autres compétences, et dans compétences, hein, à la différence de la définition qui a été prise en considération ce matin, j'entends bien qu'une compétence inclut des connaissances. Si on considère les compétences secondaires, ce sont donc des compétences qui ne s'acquièrent pas seulement par l'expérience, c'est-à-dire qui nécessitent des activités d'apprentissage explicites, comme celles qui ont été indiquées tout à l'heure, de comprendre le modèle qui est derrière un algorithme, par exemple, pour bien comprendre la situation et son évolution. Eh bien, ça milite quand même pour que dans notre système scolaire et universitaire, c'est un vieux débat, pas tranché, toujours d'actualité, on organise vraiment bien au-delà de ce qui est fait, un enseignement explicite, alors de quelles connaissances, de quelles compétences et avec quelle didactique et quelle pédagogie, ça je ne m'engage pas là-dedans, mais il faut absolument le faire, et je pense même qu'il vaut mieux le faire mal que de ne pas le faire. Or aujourd'hui nous ne le faisons pas.
Merci, enfin tous vos éléments finalement, c'est on revient à cette notion de d'une véritable société aussi, finalement, qu'on peut identifier à travers le numérique. Tout ce qu'on entend, c'est aussi, à travers vous, la relation à l'autre, hein, que ce soit dans le passé, puisque c'est l'autre dans le passé, aujourd'hui, avec le débat, qui fait, avec la société aussi, tous les éléments, et que c'est ça qui constitue aussi la citoyenneté, finalement, aussi bien dans le milieu physique que dans le milieu numérique. Alors, je dois dire que, vu l'heure qu'il est, je ne sais pas si on a le temps d'avoir encore une ou deux questions. Jean-François, j'interroge notre gardien du temps.
Bonjour à tous, je suis Timothée Duquesne, je suis scénariste, je suis formateur sur différents sujets qui sont liés au numérique et auteur d'un livre sur le sujet de l'avenir du numérique. D'abord, je voulais vous remercier pour ces échanges, c'est extrêmement intéressant. Je voulais rebondir sur une question qui a été soulevée, c'est comment accompagner chacun à être acteur. En fait, il y a un élément, je pense qu'il me semble qu'il faut prendre en considération, le numérique est omniprésent. Il suffit de voir ici le nombre d'écrans connectés à Internet, que ce soit des ordinateurs, des smartphones. Aujourd'hui, tout ça nous semble absolument naturel, c'est le monde complètement numérisé ou pixelisé dans lequel on évolue aujourd'hui. Moi, j'ai le cas avec des étudiants, dernièrement, des étudiants que je rencontrais pour la première fois, et je leur pose une question dont évidemment je connaissais la réponse. Je leur demande, est-ce que vous avez tous un smartphone avec vous? Et ils m'ont regardé un peu étonné de la question en disant, évidemment on a tous un smartphone. Et en fait, cette évidence, j'ai essayé de leur expliquer que si on revient quelques années en arrière, le fait d'avoir un accès à Internet 24 heures sur 24 au bout du bras, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Et en fait, je crois même que ça s'apparente à un super pouvoir. Et la question, c'est comment est-ce qu'on utilise ce super pouvoir? Et alors moi, je peux parler du numérique, mais j'utilise plutôt le mot de pixel. Et en fait, derrière chaque pixel, il y a un message, des valeurs, un modèle économique. Et finalement, derrière ça, c'est une vision de la société. Et du coup, l'attention qu'on va prêter à tel ou tel pixel, ou les interactions qu'on va avoir avec tel ou tel pixel, chacun d'entre nous a une responsabilité. Et pour exercer cette responsabilité, on a un super pouvoir. Et il me semble qu'il est essentiel d'exercer ce super pouvoir en conscience. Et c'est, il me semble, un des enjeux importants de cette construction de la culture numérique citoyenne. Donc je ne sais pas si c'est vraiment une question, c'était une petite intervention.
Merci pour cette intervention. Je vais pas tout à fait une question, donc pas tout à fait une réponse non plus, mais un complément, effectivement, un complément important, je pense. C'est-à-dire que je partage avec vous, je dis souvent à mes étudiants et à d'autres, qu'on a un don, y compris d'ubiquité, quoi, qu'on a développé un certain nombre de pouvoirs qui étaient de l'ordre du super-pouvoir dans les grandes mythologies, hein, à un moment donné, quoi. Si on regarde aujourd'hui, parler à l'autre bout de la Terre, quand je fais une conf call avec quelqu'un à Shanghai et l'autre au Brésil, et que je suis à Paris, voire à la chaise de Vicomte en Vendée, évidemment, ça interroge sur le rapport au monde. Je crois aussi, parce que je voulais réagir à votre dernière intervention, la question, oui, effectivement, on a une partie de nos étudiants, quoi, de vos étudiants en l'occurrence, qui n'ont pas la compétence, et un certain nombre. Mais au-delà de ça, on a une très grande partie de la société qui n'ont pas la compétence. Et quand j'entends effectivement que vos étudiants ont tous un smartphone, oui, mais tous les collaborateurs de Sodebo, qui sont mes voisins, entre autres, hein, ou d'Atlantique, ou de GRDF, ou de toutes les entreprises industrielles que je fréquente, sont très loin d'avoir un smartphone. Voire même, moi je vis à la chaise de Vicomte, on n'a pas de la 4G non plus, on n'a pas non plus de la fibre, on n'a pas les usages. Et quand je lisais encore ce matin que seulement, alors que la presse semblait dire que c'était beaucoup, 51% des gens se connectaient à travers Internet par jour, comme en France, hein, comme moi je suis tout le temps dessus, donc ça me paraissait un chiffre un peu étrange, mais on vit dans un monde, ici dans cette salle, dans un environnement de l'éducation supérieure, très connectés, compétents. Au Fac Lab, qui est une très très belle aventure à l'université de Sergi Pontoise, où on a fait le pari d'un lieu ouvert à tous à l'intérieur de l'université, ouvert à tous, c'est-à-dire y compris aux gens des quartiers de Gennevilliers, aux gamins, aux artistes, à tout le monde, on a mis une seule règle ça coûte zéro, plus exactement c'est contributif, c'est surtout pas gratuit, vous devez participer, partager, documenter. Et on s'est dit à un moment donné que la règle était complètement exclusive, parce que pour pouvoir participer, partager, documenter, eh bien il faut aujourd'hui savoir taper sur un clavier, et donc il faut être lettré, il faut être capable de faire de rédiger, il faut être capable de trouver une information en ligne, en anglais la plupart du temps, et qu'il y a un certain nombre de compétences primaires qui font que, moi je travaille dans des entreprises de réinsertion, où pour le coup, quand les gens ne savent pas lire et écrire français, ben non, quand on dit dans les camions ben, on met des interfaces digitales maintenant pour faire la tournée des métiers les moins qualifiés, maintenant il faut tout saisir sur des interfaces, vous prenez le taxi contre Uber, hein. J'ai combien de taxis où quand je leur dis mais vous n'avez pas de GPS parce qu'ils ne savent pas m'emmener, et quand par hasard il finit par en sortir un, il me demande de taper à sa place l'adresse dans le GPS. Et ça, je crois qu'il ne faut pas qu'en tant que membre de l'éducation, on oublie effectivement qu'avant qu'ils arrivent dans vos cours, on est effectivement une forme de littératie primaire, mais qui dépend d'abord d'une littératie, je ne sais pas comment dire, mais lire, écrire, compter, oui, on me dit à ma droite. Merci.
C'est deux mots. Un mot, c'est un collègue de Rennes a montré que des adolescents faisaient l'acquisition de faux smartphones, parce qu'il n'avait pas les moyens d'en acquérir des vrais, mais qu'il était socialement difficile de ne pas en avoir. Là, maintenant. Et Pascal Plantard. Et deuxième point, s'agissant de ces connaissances secondaires, là, celles qui nécessitent des apprentissages, des activités explicites d'apprentissage, elles sont socialement extrêmement inégalitaires et inéquitables, hein, puisqu'elles existent quand même pour ceux dont les familles peuvent les accompagner. Et ce qui insiste beaucoup sur notre responsabilité, si nous continuons avec des logiques telles que celles qui ont été mises en œuvre avec le B2I, le C2I, c'est-à-dire reconnaître des compétences acquises par l'expérience souvent extérieure au système scolaire et universitaire, nous mettons en place des dispositifs qui accroissent la entre guillemets, fracture numérique plutôt que la réduire.
Bien, je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête là.
Voilà.
Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, merci à tous les intervenants.